Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Yay! Je suis Hélène.
Et moi, c'est Mélanie.
On est là. Pour.
On est là, oui.
On est toujours là.
On vous raconte des histoires de true crime, des histoires d'horreur, carrément.
Ouais.
Des histoires vraies, arrivées au Canada,
toujours
au Québec. Ouais. Et on vous rappelle encore une fois, même après un an, qu'on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des enquêteurs professionnels, on fait pas partie de la police, on fait pas...
Non.
On est juste deux copines un peu twisted-minded.
Deux copines enceintes twisted.
Ouais. Qui se racontent des histoires d'horreur, écoute, chacun ses passions. Hein.
Ben oui, c'est ça qu'on fait du dimanche après-midi.
C'est ça qu'on fait dimanche après-midi. Et là, on a un spécial Halloween.
Ouais.
Qui va se faire en deux épisodes parce que on va vous raconter.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Parce que c'est pas mal la pire affaire qui est arrivée à Montréal dans les 20 dernières années.
Ouais.
Fait que ça méritait deux épisodes.
Ouais.
Puis là, on a fait un concept spécial. On s'est dit qu'on ferait chacun une partie de l'histoire.
Oui. C'est la première fois qu'on raconte une histoire ensemble.
Ouais. Écoute, après un an, on se renouvelle. Ouais. On est comme ça, nous.
C'est la première fois.
Oui, c'est la première fois qu'on fait ça.
Ben oui, ah oh oui, parce que on voulait peut-être le faire pour Carla Malcop, finalement, c'est moi qui l'ai
fait. Ouais, c'est toi qui l'as fait au complet.
Parce que je suis passionnée par cette femme.
Fait que, tant, on va vous raconter l'histoire de Luca Rocco Magnotta.
Boum!
À la demande, il y avait mon ami ex-coloc Raoul qui l'avait demandé.
Ouais.
Il avait dit la communauté gay et qui est moi demande un épisode sur Magnotta.
Le voici, le voilà. J'ai une collègue qui me l'a demandé aussi il n'y a pas longtemps.
Ah ouais.
Tout le monde s'attend, comme après un an, pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Ouais, mais on dirait qu'à cause du documentaire sur Netflix, c'était comme. Tu sais, tout le monde a comme trop vu l'histoire.
C'est ça. Fait qu'on attendait de passer un peu, que vous l'oubliez un peu, vous oubliez quelques détails, ou que, écoute, c'est toujours une histoire qui est le fun à se faire raconter.
Mais là, finalement, ça tombait bien parce que, dans le fond, il y a un épisode là, de... C'est l'émission « Faites entrer l'accusé » sur la chaîne de télé Planète Plus qui font un épisode spécial sur « Le dépeceur de Montréal ». C'est comme ça que les Français l'appellent.
Le dépeceur.
C'est une émission française.
Ça a moins d'effet, on dirait, « dépeceur ».
Le dépeceur de Montréal. Fait qu'ils ont fait un épisode spécial sur Magnotta, qui est déjà sorti, mais en tout cas, si vous avez Planète Plus, qui est une chaîne de télé, vous pouvez l'écouter en rediffusion plein de fois dans prochaines semaines.
Et aussi, avant de commencer, t'as une mention spéciale, petit shout-out à faire.
Oui, c'est vrai. Je me suis fait une nouvelle amie podcasteuse qui s'appelle Marie-Ève et qui fait le podcast 911 Behind the Scenes. Ouais. Elle vient juste de commencer, là, genre 2-3 épisodes de sortie. Allez l'écouter, c'est nice. Dans le fond, elle est répartitrice pour le 911.
On peut pas dire où.
On peut pas dire où.
Top secret.
Ouais, puis elle a pas le droit de raconter l'histoire de où elle travaille, évidemment. Mais elle raconte comme d'autres histoires d'appels de 911, puis en même temps, elle analyse comme comment la personne, la répartitrice ou le répartiteur a répondu. Fait que c'est quand même intéressant.
C'est
un métier vraiment intriguant, tu sais. On veut full savoir c'est quoi qui se passe, justement.
Puis nous, ce qui nous intéresse dans la vie, c'est les histoires qui sont vraies.
Ouais.
Puis ça, tu peux pas avoir plus vrai que ça.
Ben non, c'est ça. T'as même, tu sais, elle passe l'appel dans l'épisode.
Ah ouais, c'est sick. Ouais. Ah ouais. On recommande fortement.
Ouais. C'est ça.
Donc. N'attendons plus.
C'est toi qui commences la première partie.
Donc là, première partie, c'est sûr que moi, j'ai la partie soft. On va se dire.
Soft.
Soft-ish.
Hey boy.
Fait que là, je me doute que, les deux, on se doute que vous avez probablement, la majorité d'entre vous ont probablement, tu sais, connaissent l'histoire, ont regardé le documentaire Netflix qui s'appelle Don't Fuck With Cats. J'ai aucune idée, c'est quoi. Et l'ont-tu traduit en français? Je sais pas. En tout cas, bref. En anglais, ça s'appelle Don't Fuck With Cats. Et c'est ça, la majorité des gens l'ont vu. C'est sorti en 2019. Nous, on a essayé de raconter l'histoire en ajoutant des faits qui ne mentionnent pas nécessairement dans le documentaire. Mm. Donc, on rend l'histoire un peu plus détaillée, un peu plus... détaillé.
Ouais. Puis c'est sûr, tu sais, le documentaire, il est vraiment centré sur l'espèce de communauté Facebook. Là,
oui.
Comment
ils l'ont trouvé et tout. Fait que voilà. Donc aujourd'hui, ça va être... je vais vous raconter un petit peu le début de l'histoire. Puis Hélène va rentrer dans les détails plus gore Gore.
Gore.
Dans 2 semaines. Ouais. Le prochain épisode. Donc, notre petit Luca, Rocco Magnotta, né à Scarborough, en Ontario, le 24 juillet 1982. Magnotta, il a été élevé par ses grands-parents à Lindsay, en Ontario. Puis ses parents, c'est Don Newman et Anna Yurkin. Et il était le premier d'une famille de 3 enfants. Fun fact, c'est pas Lucas, le Rocco Magnotta, c'est pas son vrai nom. Magnotta, il est né sous le nom d'Eric Clinton Kirk Newman. Il a été nommé d'après les célèbres acteurs Clint Eastwood et Kirk Douglas. Ce que je vois quand même.
Ah, pour vrai?
Ouais. C'est Eric Clinton Kirk Newman. Ouais. Dans le fond, son nom, ça aurait été Eric Newman. Mais eux, ils ont ajouté Clinton Kirk dans le milieu. En l'honneur de Clint Eastwood et Kirk Douglas. Fait que c'est ça. Puis lui, il a décidé de changer son nom en 2006 pour Luca Rocco Magnotta.
Sais-tu pourquoi?
Ben, on sait pas exactement pourquoi, mais les changements de nom, c'était vraiment fréquent chez Magnotta parce que, comme on l'a vu dans la série documentaire, il a utilisé tellement de pseudonymes sur Internet et tout, puis il a changé de nom. Il aimait vraiment ça, changer de nom. Puis c'est un fanatique aussi de vieux films. Fait qu'il s'inspirait tout le temps de... Tu sais, des exemples de noms qu'il a pris, il y a Vladimir Romanov, Mattia Del Santo, Jimmy, ça c'était son nom de porn star, je crois.
Ouais.
Justin, Angel, Kirk Trammell. Genre, il y a tout le temps. Apparemment, c'est toujours inspiré soit d'un film, soit d'une histoire qu'il connaît ou de genre un tueur en série famous. Ou... c'est toujours inspiré. Fait que lui, il trippait juste changer son nom.
OK.
Fait que voilà. Je t'ai fait un petit portrait rapide sur sa famille parce que, tu sais, Luca Rocco Magnotta, on va se le dire, il est pas normal.
On peut s'entendre là-dessus.
Un petit portrait rapide de sa famille pour te montrer un peu d'où il vient, OK? Sa mère, complètement, mais complètement obsédée par la propreté, germaphobe AF. Elle enfermait parfois ses enfants à l'extérieur de la maison parce qu'elle disait qu'ils étaient sales puis qu'ils pouvaient pas rentrer. Hiver comme été. En Ontario, au Canada, il fait pas chaud.
Non.
Il y a une fois, elle trouvait que les lapins, il y avait ses enfants, il y avait des lapins de compagnie. Mm. Elle trouvait qu'ils étaient trop sales, fait qu'elle les a juste jetés dehors en plein hiver. Ils sont morts de froid. C'est obsédée par la propriété. Okay. Ouais, ouais. Sa tante aussi, à Luca, qu'elle traitait de cinglé tout le temps. Puis elle disait que c'était une bombe à retardement qui était prête à exploser. Tout le monde est un peu...
Hey boy. Elle avait pas tort, mais elle a sûrement pas aidé la bombe à retardement.
Non! Mais tu sais, il faut savoir que ses parents, ils ont eu Luca Rocco Magnotta à 16 et 17 ans. Sa mère avait 16, son père avait 17. Il était vraiment, vraiment jeune. En 1994, son père a été diagnostiqué schizophrène. Puis après ça, il a divorcé de sa femme, la mère de Luca. Puisque c'est ça qui a amené Magnotta à déménager chez sa grand-mère. Donc c'est pour ça que c'est elle qui l'a élevé, parce qu'il était bien trop jeune. Aussi, un autre fait, la grand-mère et le frère de Luca Rocco Magnotta, Conrad, il traitait souvent de fif parce qu'il disait qu'il avait des penchants pour genre, tu sais, il avait des traits féminins. Il se souciait de son apparence, il s'habillait toujours bien. Fait que, sa grand-mère, sa propre grand-mère, puis son frère, le traitait de fif tout le temps. Fait que voilà. Le père de Magnotta, il affirme avoir adressé Magnotta. Il a amené Magnotta chez un psychiatre quand il avait 19 ou 20 ans à peu près, parce que son comportement, il l'inquiétait. Magnotta, il aurait entendu des voix. Puis à cette époque-là, après avoir... rencontré le psychiatre, il aurait été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde. Donc, il consultait un psychiatre déjà à 19 ans, puis il prenait des médicaments, il prenait du Paxil puis de l'Ativan. À 19 ans, c'est quand même
intense.
Un peu intense. Aujourd'hui, la mère puis la sœur, ils vivent à Peterborough, en Ontario.
Okay.
C'est pas vraiment important, mais je trouvais ça cool de le savoir. Ils sont où? Je trouve ça toujours cool de savoir ils sont où. Aussi, un autre fait, Magnotta était scolarisé à domicile avec sa sœur et son frère aussi. Il a fini quand même par rentrer dans le système scolaire public, dans une école secondaire à Lindsay, mais d'abord, il a été scolarisé à la maison avec son frère et sa sœur. Puis son père aussi aurait révélé que ça faisait en sorte que son fils était vraiment isolé, il avait pas beaucoup de contact avec les enfants de son âge, puis ça aurait été à cause de ça que Magnota, selon son père, il était pas normal. Ça aurait pas aidé.
Non, c'est sûr que ça aide pas.
Exactement.
Les gens scolarisés à domicile sont tous un peu bizarres.
Un peu.
Non, il manque un côté social.
Exactement. Mm. Puis la raison pour laquelle il était scolarisé à domicile, c'est parce que sa mère a encore la freak des germs, des germes. Elle tenait absolument à faire l'école à la maison à ses enfants. C'était elle qui faisait l'école à la maison.
Ouais.
Ils n'ont pas appris grand-chose.
Elle, la COVID...
Oh mon Dieu!
Elle doit être intense.
Ah non, elle n'a pas dû sortir de chez elle zéro en 2 ans.
C'est sûr. Elle avait son épicerie toute.
Exactement. Puis elle disait que ses enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'ils ne pourraient pas aller à la toilette parce qu'ils seraient obligés d'utiliser les toilettes publiques. Puis ça, ça n'a absolument aucun bon sens pour elle. Il y avait bien trop de germes et de bactéries. Fait que c'était pour ça qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller aux toilettes. Sûrement pas juste la raison, ouais, mais c'est raison. Une des raisons pour elle. Mais finalement, Magnota, il a fini par aller à l'école publique, puis il a été victime d'intimidation beaucoup, 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 beaucoup.
Mm.
En 2003, il était un petit peu plus vieux, Magnota a commencé à apparaître dans des vidéos porno gays à petit budget. Et il travaillait comme stripteaseur et escorte masculine. Il est apparu en tant que pin-up dans un numéro de 2005 du magazine Fab de Toronto sous le nom de Jimmy.
Mm-hmm.
Son petit nom. Ça me fait penser à... Non, t'écoutais pas Occupation Double.
Non.
Jimmy d'Occupation Double, c'était le stripteaseur du 281.
Oh!
Mes girls are there. Je sais qu'il y en a plein qui savent de qui je parle. Ça me fait penser à ça. Donc, Magnota, on sait très bien qu'il est obsédé par son apparence. Il voulait... Son but à lui, c'était d'être mannequin ou acteur. Mais contre... Tu sais, il voulait juste... Dans le fond, tout ce qu'il voulait, c'était être célèbre.
Ouais.
C'est juste ce qu'il voulait. Fait que là, en 2007, il avait 25 ans, il a auditionné pour une émission de télé-réalité qui s'appelait Plastic Makes Perfect, diffusée au Canada sur la chaîne Slice. L'émission, ça documentait des jeunes Canadiens qui ont eu recours à la chirurgie plastique. Puis dans son clip d'audition, qu'on peut voir, je l'ai vu, il décrit ses opérations, puis il dit qu'il y a eu une greffe de cheveux, puis il y a eu aussi des interventions sur son nez, sur ses yeux. Écoute, les yeux, j'ai pas de détails là-dessus, mais j'ai aucune idée. Et son prochain plan, c'était de se faire implanter des muscles dans les fesses et les pectoraux.
Je savais pas qu'on pouvait se faire implanter des muscles.
Tu savais pas?
Non.
Ben, c'est pas des vrais muscles, c'est des implants, genre, pour avoir des fesses bombées. Ou...
OK, ouais, des fesses bombées, ouais.
Des pectoraux, là, des...
OK, toi, ouais,
c'est... Mais c'est pas des muscles, là. C'est comme quand tu veux mettre des faux seins.
C'est comme un wack.
Ben,
ouais. Vraiment wack, en fait.
Ben, c'est de plus en plus populaire. Mais tu sais, en 2007, c'était quand même pas tant accessible encore.
Ouais.
Tu sais, aujourd'hui, la chirurgie plastique ou tu sais, le botox, les fillers, c'est vraiment accessible. Mais dans ce temps-là, ça l'était pas vraiment. Fait que ça devait coûter une claque. Toutes ces opérations-là. D'où mon prochain point. À cause que, justement, c'est ça, il faisait toutes ces chirurgies-là, il a fait des petits jobs, tu sais, il faisait du striptease, il était escorte. Il jouait dans des films porno gays à très, très petit budget. Il gagnait vraiment pas beaucoup d'argent. Fait que là, en mars 2007, il a été obligé de déclarer faillite.
Ah!
Ça, il ne mentionne pas dans le documentaire.
Non, ça, je l'ai pas vu nulle part qu'il avait fait faillite.
Il a déclaré faillite. Il avait accumulé plus de 17 000 $ de dette.
Oh.
Ouais, ça allait pas son affaire. Puis, apparemment, il a été libéré de sa faillite en décembre, la même année.
Ah.
Je savais pas, tu peux être libéré d'une faillite.
Moi non plus.
Puis, il a continué à travailler en tant que travailleur du sexe et mannequin. Fait que dans le fond, ça n'a rien changé à sa vie. Il a juste recommencé à zéro.
Ouais.
C'est ça. Fait qu'il s'est juste débarrassé de ses dettes. Genre. Ça sonne vraiment wack.
Ouais.
En tout cas. Le Rocco Magnota aussi, il n'a pas commencé avec le meurtre de Lynn June qu'on connaît.
Mm-hmm.
Il a eu des petites activités criminelles avant. Ça a commencé en 2005. Il a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'usurpation d'identité et de 3 chefs d'accusation de fraude. il a été accusé par Sears Canada, The Brick et un magasin que je ne connaissais pas qui s'appelle 2001 Audio Vidéo.
Ah, c'est tous des trucs qui n'existent plus.
Non, c'est ça. Ben, The Brick, ça existe encore.
Ah ouais, The Brick, ouais. Mais
Sears, non. Ben, sûrement 2001 d'audio vidéo non plus.
Ouais. J'avais quand jamais entendu. 2001 ça. Dans ton.
C'est ça.
Dans ton nom d'affaires.
Rendu en 2021, ça n'existe plus vraiment. Puis dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il se faisait passer pour une femme puis il demandait une carte de crédit. Apparemment que c'était plus facile pour le du magasin. Puis il achetait plus de à peu près 10 000 $ de marchandises dans ces magasins-là. Puis en tout cas, c'était
qu'est-ce
vraiment...
Qu'est-ce que t'achètes
pour 10 000
$? Pour 10 000 $ au Sears?
Ben, ça va vite quand même. Ouais. T'achètes des meubles, une télé, c'est réglé, là.
Ouais, j'avoue.
Ça peut monter vite. Une télé à 5 000 $, c'est facile.
Même en 2007.
Ouais, même ouais. En 2005, là.
Ouais.
Fait que bref, il a plaidé coupable, il a reçu une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de 12 mois de probation. Il a... c'est ça. Là, après ça, quand il est sorti, c'est là qu'il a changé son nom, le 12 août 2006, pour Luca Rocco Magnotta. On se rappelle qu'il s'appelait avant Eric Clinton Kirk Newman.
Mm-hmm.
Pauvre Clint Eastwood. Et c'est ça. Puis c'est là, après ça, qu'il a été libéré de sa faillite en décembre 2007. Fait que okay. Là, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de dette. Genre, toute sa vie, elle va bien. Et c'est là qu'il commence à virer un peu sur le top.
Déjà qu'il n'était pas super normal jusque-là.
Jusque-là, non. Mais là, c'est là que ça s'en vient pas bien. Tout le monde sait que Luca Rocco Magnotta, il a une obsession envers sa beauté, son apparence, il veut être célèbre. Et... cool. Comment tu te rends célèbre dans ces années-là, même aujourd'hui? Les internets!
OK!
Alors, son obsession pour les internets. Il était extrêmement actif en ligne. Genre, il était obsédé. Il était tout le temps sur les internets. Il a créé plein de vidéos. Il a créé des annonces de rencontres. Il créait des profils. Écoute, il a créé et tenu à jour un site web personnel qui s'appelait Luca Magnotta Male Model. Et il postait des photos de lui en torse nu. Ça a commencé de même. Après ça, il a commencé à créer des nombreux profils sur des sites médias sociaux, des forums de discussion. Puis ça a duré plusieurs années. Et son but, c'était d'implanter une variété de revendications à son sujet. A.k.a. il poutait out there des rumeurs sur lui-même. C'était ça qu'il faisait. On dit qu'il aurait créé au moins 70 pages Facebook différentes, avec des pseudonymes différents, comme je te nommais un peu plus tôt. Et il y aurait 20 sites web sous différents noms, tous à propos de lui. Mais c'était tout lui qui manage ça, là. Genre, il était non-stop.
Un bon fou.
Un bon fou. Et là, en 2007, il y a une rumeur qui part comme ça. Comme de quoi... Luca Rocco Magnotta d'était Carla Molka.
Je la connais, celle-là.
Yeah! Écoute, fait que là, il parle, il date, là, il met des photos, ben, il photoshop des photos, la grosse affaire. Carla, d'ailleurs, elle n'a jamais parlé de ça. Elle n'a jamais deny ou... C'est quoi qu'on dit? Elle n'a jamais affirmé.
Dénié ou affirmé.
Affirmé,
elle n'a jamais commenté rien.
Exactement. Elle n'a jamais parlé. On n'a jamais entendu ce nom-là, Luca Rocco Magnotta, sortir de sa bouche. Puis Magnotta, après, il a démenti à plusieurs reprises que c'était pas vrai puis que c'était pas lui. Puis finalement, il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait fini par peut-être avouer que c'était une joke.
Ah!
Mais il y a comme deux clans. Il y en a qui disent qu'il l'aurait avoué que c'était une joke, puis il y en a qui disent que non. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui est vrai. Mais bon.
C'est tellement laid.
Je sais.
Puis c'est ça, pour ça que j'avais déjà vu une entrevue de lui qui est là. Oh non, mais c'est trop pas vrai là, que je sors avec Carla. Là, je comprends trop pas, ça sort d'où. Là. À quel point
À quel point il est pas là.
Oh my god, c'est whack là.
Mais écoute, c'est comme les célébrités qui appellent les paparazzi, genre. Pis
ouais.
Qui disent, Kim Kardashian est à tel restaurant, puis c'est Kim Kardashian qui fait ça. C'était genre. Sorry, je suis en train de mettre Kim Kardashian puis Luca Rocco Magnotta dans le même sac. C'est un peu chiant. Il y a aussi. Il tenait un blog, il était très actif sur son blog. Et je vais te lire une description de lui-même qu'il aurait écrite. Écoute, c'est quand même bien écrit pour moi. Il dit « Je mène une vie conviviale, sociable et vigoureuse, et il serait naïf, ignorant et incongru que quiconque me juge en fonction des fictions virulentes qu'il lit en ligne. Je ne ressens pas nécessairement le besoin de redorer ma réputation puisque les personnes qui me connaissent le mieux seront plus qu'heureuses de se porter garante de mon honnêteté dans ma conduite et je peux fournir de nombreuses références satisfaites et loyales si nécessaire. Ça, c'est quand
les... Son profil d'escorte, ça, ou c'est quoi?
Non, c'est quand... c'est sur son blog, quand les histoires ont commencé à sortir à propos de lui, que c'était peut-être lui qui faisait des rumeurs, puis c'était peut-être lui, il n'était pas encore recherché par la police à ce moment-là. Mais il y a des rumeurs qui commençaient à sortir qu'il était fucké, puis que Carla Molka, c'était pas vrai, nanana, puis que là, il écrivait ça.
OK.
À ses fidèles lecteurs, qui est probablement
c'est,
personne.
C'est 5 fans.
Exactement. C'est ça. Puis aussi, il aurait également publié des messages sur le site web suprémaciste blanc Stormfront. Il y avait deux comptes, il y avait deux noms d'utilisateurs différents. Et dans un des commentaires laissés par Lucas sur le site, il bâchait les Chinois.
Oh! Oh!
Ta-ta-ta.
Indice pour la suite.
Pour la suite. Il y a aussi, on peut pas passer à côté de la passion de Magnetta pour les chats. Une petite parenthèse sur sa passion pour les chats. Magnetta, c'est le présumé, il est présumé à être la personne à l'origine d'une série de vidéos de cruauté envers les animaux. Impliquant des chats qui auraient été publiés sur YouTube à partir de 2010. C'est quoi que je veux dire?
Je sais pas.
Oreilles sensibles, s'abstenir.
Ah ouais.
Ceux qui aiment les chats, écoutez pas ce que je veux dire. Il y en a une qui serait intitulée One Boy, Two Kittens. Un garçon, deux chats. Ça montre un homme et lui-même. Étouffant délibérément deux chatons avec un aspirateur. C'est vraiment... Celui-là, je l'ai vu.
Ah ouais? Tu l'as vu?
Ouais. Genre, je suis pas fan de chats, mais... C'est des bébés chats. Ils sont vraiment cute. En tout cas, bref. Ça me donne mal au cœur, je vais en parler. En janvier 2011, il y a un groupe privé sur Facebook qui a identifié Magnetta comme étant la personne apparaissant dans ces vidéos-là. Puis là, il y a des groupes de défense des droits des animaux qui ont ensuite offert une récompense de 5 000 $ pour quiconque serait capable de le traîner en justice avec genre des preuves ou whatever. Et aussi, Magnetta, un peu plus tard, il aurait avoué à un journaliste à Londres qui avait réalisé une vidéo aussi qu'il avait mis en ligne qui montrait un chaton qui était dévoré vivant par un python. Tu sais, les astuces gros serpents. Tout le monde. Alors voilà. Voilà le portrait de notre homme.
Mm-hmm.
Et là...
Des petits indices de psychopathie, ça.
Petit!
Sur et des animaux.
Oui, exactement.
En plus, les diffuser sur YouTube, ça, c'est next level.
Exactement. Mais ça commence toujours de même. Je sais pas pourquoi les psychopathes, les tueurs genre... en série font mal à des animaux.
Pipi au lit quand il était jeune. Puis apparemment, ça... Apparemment qu'il faisait pipi au lit.
Ouais, c'est vrai.
Tuer des animaux.
Ah, il y a tout ce qu'il faut,
Red
là.
Red flags.
Ouais, il y a tout ce qu'il faut.
Si votre enfant fait pipi au lit, puis tuer des animaux, checkez-le.
alerte rouge, guys.
Une petite rencontre chez le psy.
Exactement. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Lin Jun, née le 30 décembre 1978. Je me sens comme dans un documentaire. c'était un étudiant international de Wuhan, en Chine. J'espère que je le prononce comme il faut.
Et... Oui, c'est de là que vient la COVID.
Oui.
Oui.
Plus c'est plate, Wuhan, mais oui. Te lance pas content. Oui, c'est de là que vient la COVID.
C'est genre une des seules provinces de Chine dont je connais le nom à cause qu'il y en a tellement parlé dans les médias.
Wuhan. Ah oui, le petit marché. Oui, c'est vrai.
Oui.
C'est un étudiant de premier cycle dans le programme d'ingénierie d'informatique de Concordia. Et il travaillait à temps partiel comme commis de dépanneur puis étudiait à Montréal depuis juillet 2011. En 2012, il a emménagé dans un appartement à Griffintown avec un petit coloc. On est le 1er mai 2012.
Il était beau. Comme les photos, il y avait tellement...
Oui.
Il avait tellement l'air sweet et beau.
Non, il y a de l'air genre... Sweet, exactement. Ouais. Il ferait pas de mal.
Ouais.
Bref. Le 24 mai de la même année, 2012, Lin Jun il tombe un soir sur, ce soir-là, sur une annonce publiée par Magnetta sur Craigslist. Et l'annonce dit « À la recherche de sexe pervers et de bondage avec un autre homme. » Voilà. À laquelle Lin répond. mm-hmm. parce que ça l'interpelle, écoute. Fait qu'il répond à l'annonce de Magnetta et ils organisent une rencontre pour se voir dans l'appartement de Magnetta à Montréal, tard dans la soirée du 24 mai 2012. Il y a une vidéo de sécurité qu'on voit justement dans le documentaire Don't Fuck With Cats qui montre les deux hommes qui entrent dans l'immeuble et malheureusement, il s'agit de la dernière image qui a été enregistrée de Lynn vivant, à part la vidéo dont je vais te parler dans quelques secondes. Donc, Lynn Jr. a donc été vue pour la dernière fois le 24 mai 2012. Et apparemment, il a renvoyé... Le dernier message texte qu'il a renvoyé, c'était à son ex le soir du 24 mai, puis ça disait juste « bonjour yeah. ». Parce que ça a l'air qu'à ce temps-là, il s'en allait travailler, puis il textait « bonjour oh. ». C'est le dernier message que Lynn a envoyé. Ever. Le 25 mai, le lendemain, il y a une vidéo de 11 minutes intitulée « One Lunatic, One Ice Pick ». Un fou, un pic à glace.
Un lunatique et un pic à glace.
Exactement. Ouais. Puis la traduction, ça a été mis en ligne sur un site canadien. Sur le site, là, attention, je vais rentrer dans les détails assez intenses. sur la vidéo. On voit un homme nu attaché à un cadre de lit. Il se fait poignarder à vraiment beaucoup de reprises avec un pic à glace et un couteau de cuisine. Puis, il se fait démembrer. À ce moment-là, quand il se fait démembrer, il est encore en vie. Après ça, il succombe à ses blessures et décède. Et c'est là que l'homme, et Luca Rocco Magnetta, il se livrerait à des actes de nécrophilie. C'est-à-dire avoir des actes sexuels, commettre des actes sexuels avec le corps décédé de sa victime.
C'est dégueulasse.
Et ça se termine pas là. L'auteur du crime, Luca Rocco Magnetta, il utilise un couteau et une fourchette et il coupe des parties de la chair de sa victime et il fait mâcher le corps par un chien. Tout ça, c'est filmé. Là. Fait qu'il fait manger la chair de sa victime à un chien. Et casually, la chanson « True Fate » qui joue en fond sonore, puis il y a l'affiche du film Casablanca de 1942 qui est visible sur le mur. Ce qui est quand même des détails importants plus tard, mais voilà. La vidéo, ça m'écœure. Mm-hmm. La vidéo, le pire, c'est que genre, tu peux la trouver très facilement sur Internet. J'ai pas osé la regarder, honnêtement.
Moi non plus.
Je suis pas capable. Mm.
Mais par exemple, paraît que la partie cannibaliste, c'est pas vrai. C'est un montage.
Ben ouais. Ben il y a plusieurs théories là-dessus.
Mais ça, c'est selon la police. Genre, qui ont vraiment tout analysé. Puis comme pas juste la vidéo sur Internet, eux, ils avaient accès à comme d'autres parties qui étaient pas dans le montage final, mettons.
Ouais.
Fait qu'ils ont vu que c'était vraiment juste dans le montage qui a fait du vidéo qu'il y avait l'air de cannibaler le corps. Mais au moins, cette partie-là, c'était pas vrai.
Au moins.
Mais écoute, tout le reste...
J'ai quand même mal au cœur. Ah oui, après, ça a l'air qu'il aurait trouvé des posts que Magnetta aurait fait qui aurait poussé peut-être à la promotion de cette vidéo-là 10 jours avant la diffusion. Genre, qui annonçait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Mais apparemment, selon la théorie, la police n'aurait pas su... Pas la police. Luca Rocco Magnetta aurait pas su exactement qu'est-ce qui allait se passer. Genre, c'était pas tant prémédité, son truc. Fait qu'il il faisait la promotion de quelque chose qui allait se passer, mais il savait pas quoi lui-même encore.
Ouais.
Fait que ça, c'était 10 jours avant le meurtre. Fait que quand même, il préparait ses trucs. Donc, bref, c'est un meurtre horrible.
Oui.
Et aussi... pour terminer sur cette note. La même vidéo de surveillance qui montre Lynn June et Magnetta entrer dans l'immeuble, elle montre aussi Magnetta sortir des sacs de poubelle dans la poubelle dans le sous-sol de son appartement. Ben des sacs de poubelle. Et je vais arrêter l'histoire là-dessus.
Et une grosse valise.
J'avais dit j'arrêtais l'histoire là-dessus. Okay. T'en dis trop? Comme si les gens savaient pas. Donc, voilà, l'histoire de ma partie s'arrête là. La partie gross.
Ouais, là, c'est one ça, finalement, c'est toi qui as la pire partie, pas mal.
Ben, ouais, je sais pas.
Ouais.
Il y a pas une... Ah, j'ai mal au cœur. S'il y en a qui... je suis sûre qu'il y a d'autres Twisted comme nous qui l'ont vu la vidéo. S'il y en a qui l'ont vu la vidéo, j'aimerais ça savoir comment vous vous sentez ou
ouais.
C'est quoi vos outputs ou genre...
Si vous l'avez écouté.
Ouais. Parce que j'ai écouté plusieurs podcasts là-dessus sur Luca Rocco Manetta. Puis il y a, entre autres, il y en a une des filles que j'ai écoutées qui, elle, disait avoir trouvé la vidéo. Elle avait commencé à regarder. Puis elle pleurait. Fait qu'elle a arrêté de le regarder. Moi, j'ai vu celle des chats. Pas le chat mangé par un piton, mais les chats aspirés par l'aspirateur.
Ouais.
Juste ça, ça m'a glacé le sang. Fait que je parle plus loin que ça.
Ouais, non. Moi, je sais que... Tu sais, j'ai vraiment une bonne tolérance au true crime, comme vous avez pu remarquer. Mais je sais que ma limite... Ça, c'est au-dessus de ma limite.
Genre. Ouais.
Ouais.
Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont vu. Puis sentez-vous pas mal ou écrivez-nous en privé, là. On juge pas partout, là. Je veux juste savoir, tu sais, à quel point c'est gross, à quel point...
Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait, là?
Ouais. Genre, comment tu sais, est-ce que tu regrettes?
C'est sûr c'est dégueulasse, là.
Ouais. Oui. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que t'aurais aimé mieux ne pas cliquer puis ne pas succomber à ce besoin de cette curiosité qui t'habite? Bref. Voilà. Donc, mon histoire s'arrête là. Il sort ses sacs de poubelle. Il sort une grosse valise. Voilà.
Tintintin. La suite dans 2 semaines.
La suite dans 2 semaines.
Comment il va se faire pogner et tout ce qui arrive après.
Exactement. Donc, merci de nous avoir écoutés. Écrivez-nous.
Oui, merci pour tous vos commentaires du dernier épisode, là, l'épisode spécial 1 an. Il y a pas le monde qui nous ont écrit, puis beaucoup de félicitations.
Ça nous fait tellement du bien de nous entendre.
Vraiment.
Fait que n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer. On reçoit beaucoup de mémos vocaux aussi, je trouve ça drôle.
Oui, c'est drôle, les mémos vocaux. Ouais.
Et voilà, alors on se voit dans 2 semaines.
Oui, à la bine prochaine.
À la bine prochaine, je l'ai dit. Yes. Bye!
Bye!